sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Régime miracle, produit amincissant, pilule brûle-graisse. En matière de contrôle du poids, on entend et on lit souvent tout et n'importe quoi. Pourtant, l'obésité comme la dénutrition constituent de véritables problèmes de santé publique. Énormément d'informations circulent dans la presse, sur les réseaux sociaux et promettent aux femmes et aux hommes une silhouette de rêve associée à des promesses de séduction en dépit souvent de considérations élémentaires en matière de nutrition. Il faut dire que certains, en voulant mincir, semblent du même coup abandonner une part de leur bon sens en ingurgitant des fruits pendant des jours pour seul repas, en avalant des cachets achetés sur Internet, voire même en cessant de s'alimenter. Alors, comment évaluer l'efficacité des régimes? Quelles questions se poser sur les effets secondaires de certaines cures? Le contrôle du poids est un marché, et souvent un marché de dupes, qui voudrait faire oublier que le bon poids, c'est avant tout une question d'équilibre. Et une émission lors de laquelle nous allons parcourir votre livre, professeur Luxine Aubert. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes professeur de nutrition à la faculté de pharmacie de Paris, chef du service de biochimie à l'hôpital Cochin à Paris. Cet ouvrage, aussi pédagogique qu'incisif, s'intitule « Tout sur votre poids, ne prenez pas de risques » et il est publié aux éditions Michel Lafon. En deuxième partie d'émission, on va retrouver en ligne du Cameroun Émilie Kabiwa, consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. En fin d'émission, vous retrouverez le bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité de la semaine, avec à la une le jugement prononcé mardi à Cotonou au Bénin dans le procès des faux médicaments. À Mayotte, les conséquences de la crise sociale et des barrages sur le secteur de la santé. Et puis la disparition à 99 ans du célèbre pédiatre américain, le professeur Brazelton. Et bien sûr, notre numéro pour témoigner, poser vos questions, c'est le 33 84 22 75 75. Alors, votre livre, Tout sur votre poids, sous-titré « Ne prenez pas de risques », professeur Luxine Aubert, parce qu'en essayant de changer de poids, c'est ce qu'on comprend à vous lire, on peut sérieusement mettre sa santé en danger.
Oui, tout à fait. Je crois que vous avez bien résumé la problématique, les régimes miracles, les pilules extraordinaires. On peut s'exposer à de sérieux ennuis. Déjà, il faut éviter, comme vous l'avez sous-entendu, éviter de faire n'importe quoi, c'est-à-dire éviter les régimes dissociés. Ne mangez que des bananes ou ce que vous voulez. Ça, c'est très mauvais pour la santé. Ou ne pas manger du tout. À ce moment-là, on s'expose à perdre avant tout ses protéines. Or, les protéines, c'est extrêmement précieux. Ça intervient dans toutes les régulations de l'organisme. Et en particulier, on s'expose aux infections. C'est pour ça que les enfants dénutris, dans un certain nombre de pays, font tellement d'infections avec des diarrhées, etc.
Moi, j'ai une question générale sur notre société. Comment se fait-il? On sait, dès les premières heures de la vie, à quel point manger est important. Comment se fait-il que des personnes dissocient la santé de l'alimentation? Comme si on pouvait se permettre de manger n'importe quoi, finalement, et de prétendre rester en bonne santé.
Non, enfin, je pense que plus que jamais, une majorité des personnes fait une étroite association entre santé, nutrition et longévité. D'ailleurs, si l'espérance de vie a tant augmenté, au moins dans les pays occidentaux ces dernières années, c'est parce que le régime alimentaire s'est considérablement développé. Après, je dois dire que malheureusement, c'est le rôle des médias, de certains médias, et qui impriment très fortement le comportement de la population. Typiquement, c'est même si c'est un peu plus réglementé maintenant, le rôle dévastateur montrant des mannequins très très maigres, anorexiques.
Même avec la saison de la maigreur, hein, on va voir arriver ça en Europe avec les beaux jours, professeur Sinobert, la saison des maillots de bain, et là c'est la saison des régimes. Et vous le dites, hein, ceux qui se posent la question, est-ce qu'il existe un régime idéal? Eh bien c'est un démenti, régime idéal c'est compliqué, c'est très compliqué justement de mincir sans perdre autre chose que du poids.
Il y a deux niveaux, vous savez, c'est culturel, c'est-à-dire que si on regarde sur des centaines, voire des milliers d'années, le canon de la beauté, c'est l'obésité en période de famine. Parce que les personnes qui sont grosses sont alors mieux armées pour résister à la famine. Et puis inversement. Or, actuellement, dans nos sociétés, on est dans une situation de pléthore, d'accès facile pour une majorité, et je le redis encore, dans les pays occidentaux, et donc on recherche du coup la maigreur.
Alors, on va pas que critiquer les régimes, parce que vous mettez en avant aussi des choses très positives, avec notamment cette information très importante sur ce que vous désignez comme l'équilibre pondéral, professeur Sinobert, ce poids de bonne santé, un poids qui peut varier au cours des différentes étapes de la vie.
Oui, tout à fait. Un enfant doit assurer sa croissance, et avant cela, une femme enceinte doit prendre du poids, pas trop, mais elle doit prendre du poids pour subvenir aux besoins de son futur bébé. Et puis, avec l'âge, inexorablement, on voit la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire essentiellement, qui diminue. Et cela, il faut s'en soucier, parce que, je crois que mon livre le raconte bien, on perd toutes sortes de fonctions avec une perte de poids excessive, et donc faire attention à maintenir un poids correct lorsqu'on est très âgé.
Et ce poids, il se calcule, hein, il y a une formule mathématique. Vous pouvez un petit peu nous expliquer de quoi il retourne, ce fameux indice de masse corporelle?
Oui, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Alors bon, il faut une petite calculette pour calculer la taille au carré, mais un peu au-dessus de 20 et jusqu'à 26-27, pour un adulte, on est en bonne santé. En dessous, on est dénutri et au-dessus, on est en surpoids puis obèse.
Vous disiez tout à l'heure, avoir le bon poids, c'est aussi se garantir un équilibre, mais aussi une bonne santé, parce que certaines pathologies sont directement liées d'un côté soit au surpoids, à l'obésité, soit d'un autre côté à la dénutrition. Si on parle justement des pathologies chroniques liées à l'obésité, on doit citer quelles maladies en particulier ?
Ouais, elles sont multiples. Pour en citer une importante, c'est avant tout le risque cardiovasculaire. Et puis d'autres maladies chroniques. Alors, maladie cardiovasculaire, ça peut tourner à une pathologie aiguë, l'infarctus du myocarde par exemple, la crise cardiaque, et de façon chronique, très souvent associée à l'obésité, on a le diabète, qui lorsqu'il est mal contrôlé fait des ravages au niveau de la vue, au niveau du rein, au niveau de la cicatrisation.
Il y a aussi un impact psychologique sur l'estime de soi, sur son positionnement dans la société. D'ailleurs, à double tranchant pour les personnes obèses, c'est une réalité au-delà de toutes ces maladies que vous venez d'énumérer, professeur Luc Sinobert. Mais il y a malgré tout cette quête de la minceur quand on n'est pas obèse. C'est une réalité aujourd'hui dans les pays du Nord, dans les pays riches. Et là aussi, on peut avoir des affections parfois graves liées à une forme de dénutrition.
C'est sûr que la maigreur va entraîner, faire le lit de la dénutrition. Poussée à l'extrême, c'est une maladie qui touche essentiellement les jeunes femmes, qui est l'anorexie mentale, avec, on retrouve toujours les mêmes choses liées à la malnutrition en général, qui sont les désordres de l'immunité. On est plus sensible aux infections, on cicatrise moins bien, et à la limite, on peut avoir l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une peau parcheminée, des cheveux qui tombent, enfin...
Voilà. On était en quête d'une belle image et on se retrouve avec une image dégradée. Et il y a d'autres personnes, alors là, pour qui c'est un véritable défi, professeur Sinobert, ce défi, c'est de gagner du poids, parce que malgré ce qu'elles mangent, malgré leur activité, elles restent à leurs yeux, et d'ailleurs parfois même aux yeux des médecins, trop maigres.
Oui, c'est ce qu'on appelle la maigreur constitutionnelle. Ce sont des gens qui, en général, mangent à peu près suffisamment, qui ont des dépenses, donc ont des dépenses énergétiques hein, liées à l'activité physique qui est à peu près normale, et donc il y a un trou entre les deux, on ne sait pas très bien où passent les calories. Et alors ce qui est remarquable, c'est que une équipe qui est très bonne est à Saint-Étienne, et ils ont souligné que sur cette maigreur constitutionnelle, il y avait à peu près une cinquantaine d'articles scientifiques qui existaient,
contrairement
versus
à la littérature.
Les centaines de milliers sur l'obésité.
En fait, les maigres n'intéressent pas grand monde.
Oui, mais en fait, c'est quand même un vrai souci. Je connais quelques maigres constitutionnels, ça les ennuie beaucoup. Ils aimeraient bien prendre du poids.
Alors, vous allez rester avec nous, professeur Luc Sinobert. On va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Et j'en suis certaine, parmi ces auditeurs, il y aura un certain nombre d'entre eux qui espèrent gagner du poids, justement.
Priorité Santé sur RFI.
Et la première de ces auditrices, c'est Soraya. Elle est en ligne de la Côte d'Ivoire, hein, d'Abidjan. Bonjour Soraya.
Bonjour.
Bonjour madame. On vous écoute Soraya, le professeur Sinobert vous écoute.
Alors, bonjour professeur Sinobert. Je vous ai entendu parler, et vous parliez de maigreur constitutionnelle. Je crois que j'en suis un cas. Parce que j'arrive pas à prendre du poids. Je prends beaucoup de compléments alimentaires, je mange suffisamment, je crois. Je fais beaucoup de sport en même temps et je suis vraiment en dessous de mon IMC, on va dire.
Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner votre taille, votre poids et votre âge, parce que les trois paramètres comptent?
Alors, j'ai 40 ans, je fais 1m68 et j'oscille le plus souvent entre 43 et 48 kilos.
Professeur Sinobert, on peut dire que Soraya est quand même en sous-poids?
Oui, un petit peu. Ça me semble pas complètement dramatique. Et si vous vous sentez, vous, bien dans votre peau, indépendamment du regard des autres, ça me semble bien. Vous savez, à la fois dans le sous-poids comme dans le surpoids, la clé, c'est souvent de respecter des repas structurés à horaires à peu près fixes. Et avec une place importante pour le petit déjeuner. Hein, beaucoup de gens ne prennent pas de petit déjeuner ou pas suffisamment. Et voilà, le repas de midi, ne pas hésiter à faire un goûter. Et puis, éviter des... Alors, les compléments alimentaires, si vous en prenez tous azimuts, en fait, vous faites le lit des carences. Parce que vous croyez que ces compléments alimentaires vont vous aider. Ils vont aider à apporter un certain nombre de nutriments. Puis, vous oublierez complètement les autres. Et ça, c'est évidemment très mauvais. Donc, j'insiste, des repas structurés et le plus équilibrés possible. Et puis ensuite, éviter... des boissons qui, par multiples mécanismes, sont susceptibles de faire perdre un peu de poids, pas
par
beaucoup.
Exemple
par exemple, le café, hein, et tout ce qui contient de la caféine, boissons énergétisantes, etc. Certains sodas. Donc, il faut en prendre modérément. Et puis, dans ce cas très précis, ce qui est l'inverse de ce qu'il faut faire quand on veut maigrir, quand vous faites du sport, ne pas hésiter à vous prendre une petite collation après avoir fait l'exercice, immédiatement après avoir fait l'exercice physique.
Parce
que vous serez, et puis vous serez métaboliquement dans des conditions idéales pour prendre du poids.
Donc Soraya, un petit casse-croûte après l'effort, bien manger pendant les repas et éviter de boire trop de café. Peut-être que vous gagnerez quelques petits kilos. Voilà. Voilà le conseil du professeur Luxine Aubert. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel.
Merci, mais je souhaiterais savoir est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer, un médecin spécialisé dans ce domaine pour vraiment poser toutes les questions que j'ai à l'esprit.
Un professeur en nutrition ou un service nutrition, certainement, vous êtes à Abidjan, il doit forcément y en avoir un dans un service hospitalier. Si vous voulez, on essaiera de vous renseigner après l'antenne. Merci beaucoup pour votre appel, Soraya. On va tout de suite entrer en contact avec Elsie, qui est en ligne de Paris. Bonjour Elsie.
Bonjour, bonjour professeur, bonjour à tous.
Bonjour, on vous écoute.
Alors, moi ma question concerne les bébés. J'ai un petit garçon de 9 mois. J'aimerais savoir quels sont les aliments que je peux lui donner pour qu'il puisse bien grandir et avoir un bon poids en fait. Parce qu'il a 9 mois, il pèse 8,40 kg. Et je ne sais pas si c'est dans la norme ou pas.
Une question de base, il est nourri comment aujourd'hui ?
Alors, il mange des légumes, des purées de légumes, et il prend aussi du lait. Et sachant que le lait...
Vous l'avez allaité ou pas ?
Alors, je l'ai allaité pendant 2 mois et demi, 3 mois. Il fallait que je reprenne le boulot, donc on a sevré assez tôt.
Un petit peu moins de 9 kilos, professeur Sinobert, pour un bébé de 9 mois, ça semble...
Oui. La réponse, elle est... vous savez, normalement, vous avez un carnet de santé pour votre fils, avec des courbes. Alors, pour un petit garçon, elles sont bleues. Pour une petite fille, elles sont roses. Et puis, il faut noter le poids et la taille régulièrement. Ce qui est important pour un bébé... c'est de rester toujours sur la même ligne de croissance et de s'inquiéter si d'un seul coup, pour une raison ou pour une autre, le bébé grandit moins vite, grossit moins vite que le laisserait prédire ses courbes de croissance. Voilà. Après, la nutrition du bébé est une affaire de spécialiste et donc... ne pas oublier d'aller voir le pédiatre régulièrement selon ce qui est prescrit et suivre ses conseils et vous n'aurez pas de soucis. La catastrophe, c'est quand on inflige au bébé des régimes ou qui entraînent des carences, ce qu'on appelle le régime vegan. Alors que des adultes fassent un régime vegan, c'est leur problème. L'infliger à des tout petits enfants peut être extrêmement, extrêmement dangereux.
Apparemment, ce n'est pas votre cas, Elsie. En tout cas, Elsie, vous êtes à Paris, il y a des services de PMI, de protection maternelle et infantile. Vous pouvez aller faire peser, avoir des conseils dans ce genre de services qui sont accessibles à tous. Merci beaucoup pour votre appel. Vous parliez justement de ce régime vegan particulièrement nocif pour les enfants. Il existe toute une série de régimes qui excluent certains aliments. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous savez, on est une espèce qui s'est auto-sélectionnée au fil des millénaires. Nous sommes des omnivores, c'est-à-dire qui mangent de tout. Et donc, inévitablement, à moins d'être un diététicien, médecin nutritionniste et de peser tous ces aliments, ce n'est jamais... Et à moins de souffrir d'une maladie particulière, comme la maladie cœliaque, où il faut évidemment exclure toutes les sources de gluten. Mais en dehors de ça, ce n'est jamais une bonne chose d'exclure un aliment.
Comment vous expliquez cette mode de l'exclusion alimentaire ?
Je pense que c'est sociétal. C'est vrai que... là encore, peut-être un rôle des médias, mais là, en l'occurrence, les médias ont probablement raison. On a tous vu des reportages dans des abattoirs où les animaux sont traités de façon ignoble. Et donc, je conçois très bien qu'il y a des gens qui, du coup, par réaction, disent « bah moi, je vais plus manger de viande, je vais plus... » Après,
il faut faire pareil, la part des choses.
Pour les élevages de volailles, les batteries.
C'est compliqué, mais en tout cas, dans ce cas-là, essayer de mieux choisir son alimentation, c'est toujours la meilleure solution. On va se retrouver dans 3 minutes, professeur Luxinobert, pour poursuivre cet échange, parler du poids, le bon poids, celui qui nous permet de rester en bonne santé. Le numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de Priorité Santé, toujours en compagnie du professeur Luxinobert, professeur de nutrition à la faculté de pharmacie de Paris, chef du service de biochimie à l'hôpital Cochin, auteur du livre « Tout sur votre poids, ne prenez pas de risques » aux éditions Michel Lafon. Professeur Sinobert, ce que vous préconisez au long de cet ouvrage, c'est notamment de manger mieux. Et pour cela, c'est indispensable de prendre son temps.
Oui. On est dans une société où tout va trop vite. On le voit quotidiennement avec ne serait-ce que les téléphones portables et les messageries et où tout le monde veut transmettre l'information à toute allure et tout le monde exige des réponses immédiates. Voilà, on est chroniquement débordé et du coup, on fait plus attention et en général, ce qu'on sacrifie, c'est le repas de midi. Ou on ne mange pas, ou on mange n'importe quoi, et ça, évidemment, il faut prendre le temps de se poser. D'abord, ça fait beaucoup de bien de se poser, de souffler, de ralentir le rythme, et vous y gagnerez sur tous les tableaux.
Et vous le dites d'ailleurs, une des meilleures préventions, professeur Sinobert, pour lutter contre l'obésité des plus jeunes, des adolescents, c'est le repas en famille, bien sûr, à condition de ne pas avaler n'importe quoi.
Oui. Absolument, et ça c'est démontré, et il y a une relation inverse entre de prévalence de l'obésité, entre le fait de manger à la maison versus de manger très souvent au restaurant, et en particulier dans les fast-foods, et le poids.
Avec une notion de temps, là encore, cette fameuse question des régimes, il y a des méthodes proposées, et les médecins soulignent très souvent l'effet yo-yo, un vrai défi pour conserver cette perte de poids sur le long terme. Professeur Luxinobert, c'est un petit peu comme si le corps se venge, il rattrape ce qui a été perdu.
Oui, et puis on peut avoir des addictions alimentaires et qui refont surface. Très souvent, il faut le dire, on rencontre plein de gens qui sont contents. Tant qu'on suit le régime, ça va. On perd du poids, on le maintient, mais dès qu'on arrête, dès qu'on se déconcentre sur la question, on reprend du poids et c'est quasiment inévitable. Et des fois, on reprend plus de poids qu'on en a perdu.
Donc des doutes sur les régimes. En revanche, vous soulignez les effets que peuvent avoir la chirurgie bariatrique pour les personnes qui souffrent d'une obésité là grave. C'est pas simplement 10 kilos en trop. Professeur Luxinobert, est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs de quoi il s'agit ? En fait, il y a plusieurs méthodes.
Oui. Les méthodes initiales visaient à réduire l'appétit, c'est-à-dire en fait provoquer la satiété. Et ça, c'est largement l'estomac qui le contrôle. Donc, on peut mettre un anneau autour de l'estomac et on serre. Et donc, on a moins faim, on est plus vite repu et donc on mange moins. Dans la même logique, on peut enlever une partie de l'estomac, c'est la sleeve gastrectomie. Et puis ensuite, on peut faire ce qu'on appelle un bypass, et là, on court-circuite toute une partie de l'arbre de digestion, et évidemment, on entraîne une diminution de l'absorption intestinale. Alors, on comprend que certaines méthodes sont réversibles, si on peut enlever un anneau, on peut refaire une opération chirurgicale pour enlever le bypass, c'est un peu compliqué. En revanche, quand on a enlevé l'estomac, on a enlevé l'estomac. Et après, il faut avoir conscience, même si les techniques sont bien rodées, que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et que derrière, il faut être surveillé. Comme je le disais, c'est pas une thérapeutique. C'est remplacer une maladie par une autre affection. Et donc, il faut absolument avoir les rendez-vous prescrits par son médecin nutritionniste, par son diététicien, sinon on va s'exposer à de graves carences.
Avec des carences, avec des effets sur la santé, vous le dites donc, hein, ça oui. remplace l'obésité par l'insuffisance intestinale. Oui. Quelles carences possibles, professeur Luxinobert ?
Toutes sortes, mais qui vont toucher préférentiellement quasiment toutes les vitamines, la grande majorité de vitamines, et beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. Et donc toutes les répercussions que ça peut avoir, et cela va jusqu'à des troubles neurologiques qui peuvent être irréversibles.
Alors vous restez avec nous, professeur Luxinobert, on va prendre tout de suite la direction de Yaoundé.
Priorité santé sur RFI.
Le Cameroun, où l'on retrouve Émilie Kabiwa, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Vous êtes consultante.
Bonjour Émilie.
Vous êtes consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Émilie Kabiwa, hein, cette première question, est-ce que le surpoids, c'est un véritable problème au Cameroun ?
Il faut dire qu'au Cameroun, déjà, les statistiques que nous avons révèlent que 9,6% de la population camerounaise est obèse. Donc, ça représente environ 2 millions de Camerounais. Donc, en réalité, c'est vrai que contrairement aux pays développés où l'obésité est considérée comme un problème de santé publique, les vieux n'ont pas encore conscience du caractère néfaste du surpoids. Donc, pour certains, le surpoids est encore considéré comme un signe de bonne santé.
Un signe de bonne santé, un signe aussi de réussite sociale, c'est bien cela?
Ah oui, c'est bien cela.
Alors, est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par ce surpoids, Émilie Kabiwa?
Oui, les femmes sont évidemment plus touchées que les hommes. Et déjà, c'est les femmes qui viennent beaucoup plus en consultation. Les hommes, le plus souvent, viennent parce qu'ils sont référés, parce qu'ils ont d'autres complications liées à l'obésité.
Éventuellement des complications cardiaques, des complications en termes de diabète.
Le diabète, voilà, et puis d'autres problèmes respiratoires, circulation, des problèmes osseux.
Alors, cette question du poids, notamment de l'obésité, qui est indissociable de la vision de la société, hein, cette pression, au Cameroun, vous le soulignez, Émilie Kabiwa, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit en Europe, où c'est plutôt la minceur hein, qui est le diktat. Comment faire comprendre aux personnes en surpoids que c'est un véritable problème de santé ?
C'est vrai que les pouvoirs publics, avec les liens, font l'effort de faire comprendre que l'obésité a pas mal de conséquences. Et nous avons donc des programmes de sensibilisation pour amener les personnes à comprendre que l'obésité peut comporter beaucoup de risques de santé. On fait beaucoup d'efforts là-dessus, des efforts de sensibilisation, pour amener à comprendre qu'en réalité, l'obésité, c'est pas toujours la bonne santé. Ce qu'il faut dire, que avec ce qu'il y a comme maladie, infection, Quand on est maigre, on est indexé, on a l'impression qu'on a un problème de santé. Donc ça fait que être maigre n'est pas toujours bien vu.
Et justement, quand des patients viennent vous voir, ces patients en surpoids, en consultation, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour essayer de justement d'améliorer leur situation?
Bien, après l'évaluation, on les amène à prendre à libérer l'alimentation, parce que beaucoup simplement manger comme ils ont l'habitude de le faire. Mais pendant les consultations, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font déjà, des fruits et des légumes sur le marché. Mais de plus en plus, on va vers ce qui est prêt à manger, les aliments raffinés, tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est ce qui peut favoriser ce genre de problème. Donc, on les amène à comprendre qu'ils peuvent avoir les aliments traditionnels, les fruits, les légumes.
Et justement, encore une fois, ce qui est préparé à la maison, aucune comparaison au niveau de la qualité par rapport à ce qu'on achète, ce qu'on appelle les produits ultra transformés, toute une politique voilà. Justement pour faire retourner vers la cuisine traditionnelle, Émilie Kabiwa.
Voilà. Et il faut voir déjà avec les enfants qui sont obèses, on va constater que les parents leur remettent de l'argent, quitte à eux de se débrouiller pendant les moments de pause pour acheter tout ce qui se trouve à leur portée. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment cet équilibre à ce que, par rapport à ce que ces enfants mangent. Et quand ils ont pris tous ces aliments raffinés, les sucreries et les pâtisseries, une fois à la maison, ils n'arrivent plus vraiment à manger ce qui est recommandé, ce qui est équilibré. Et puis ça également peut favoriser pas mal de problèmes.
Tout à l'heure, on avait une auditrice à Abidjan, à Soraya, qui nous demandait est-ce que vous avez des coordonnées d'un nutritionniste dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Même question pour vous. Au Cameroun, Émilie Kabiwa, est-ce que cette profession nutritionniste est connue?
Il faut dire que dans la culture populaire, les gens ne vont pas spontanément pour les prises en charge nutritionnelles. De moins en moins, les personnes comprennent qu'ils peuvent aller chez une nutritionniste pour un problème d'hypertension, de cancer, pour le suivi nutritionnel. Généralement, on se dit, tant que je n'ai pas un problème de surpoids, je suis un nutritionniste. Donc, en réalité, les nutritionnistes n'ont pas encore vraiment leur place. Il faut quand même dire que certains médecins nous aident parce qu'ils réfèrent systématiquement les patients pour des prises en charge. Les patients qui ont un taux de glycémie élevé, qui ont des problèmes cardiovasculaires ou qui ont des problèmes d'obésité. Donc, les médecins nous aident de plus en plus.
Merci beaucoup, Émilie Kabiwa. Je rappelle que vous êtes consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé au Cameroun. On vous retrouve, professeur Luxine Aubert. On l'a bien compris à entendre Émilie Kabiwa. L'image corporelle, hein, c'est très différent en fonction des régions du monde. Vous, tout à l'heure, vous soulignez des époques, mais là, des régions du monde, il y a vraiment, dans certaines zones, une beauté de l'embonpoint.
Oui, tout à fait. Ça, je crois d'ailleurs il y a un chapitre qui est consacré à ça dans mon livre. C'est culturel.
Avec justement des questions malgré tout, hein, des personnes qui mangent un petit peu en dehors des repas, ce phénomène du grignotage. Vous le soulignez tout à l'heure, on disait c'est important de manger à des heures régulières, d'avoir ses repas en famille, professeur Sinobert. Le grignotage, c'est vraiment une calamité quand on veut contrôler son poids.
Oui, dans le sens de la prise de poids, certainement. Et de façon générale, Madame Kabiwa disait bien l'utilisation d'aliments transformés qui augmente au détriment de la cuisine traditionnelle. Cette évolution, elle vient des États-Unis. Or, on sait maintenant, toute récente indique que la génération actuelle d'Américains vivra moins vieux que la génération précédente. Et parmi les facteurs, il y a la malbouffe.
Alors on va prendre un autre auditeur de Priorité Santé en ligne de Guinée, de la ville de Labé, c'est Boubacar. Boubacar, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur Sinobert.
On vous écoute Boubacar.
En fait, contrairement à vos premiers auditeurs, moi, ma question porte surtout sur la perte de poids. Mm-hmm. Je voudrais donc savoir comment perdre du poids sans qu'il n'y ait aucun risque pour ma santé.
Vous pesez combien aujourd'hui, pour quelle taille?
Je pèse 118 kilos pour 1m89.
Est-ce que vous mangez à la maison? C'est quoi? C'est des préparations faites sur place ou plutôt des plats achetés à l'extérieur?
Bon, généralement, c'est des préparations faites à la maison, généralement. Mais deux fois, je grignote dehors.
Professeur Sinobert, 118 kilos, 1m89. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Boubacar?
Mais qu'il est costaud. doit être bien, voilà. Ça ne me semble pas dramatique.
Vous soulignez dans votre livre, quand même, il y a un calcul qui est important, c'est la circonférence au niveau de
oui,
l'abdomen.
Oui, absolument.
Ça, c'est déterminant.
Qui donne en fait un indice de ce qu'on appelle l'adiposité, les graisses.
Pour expliquer simplement, c'est d'avoir un gros ventre. Hein.
Voilà, un gros ventre. Moi, dans ce cas-là, bon, à l'évidence, il faut pas grignoter. Faut boire de l'eau. Hein, j'imagine le climat. Je n'ai jamais été en Guinée, mais j'imagine le climat et on boit et donc vraiment la boisson, c'est de préférence largement de l'eau.
Boubacar, vous buvez des sodas?
Oui.
Alors peut-être que s'il y a une première chose à supprimer, ce serait ces sodas.
Voilà, boire de l'eau. On en prend relativement facilement l'habitude. C'est juste une question d'habitude. Après, on peut être addict au soda, on prend l'habitude. Moi, ça fait des années, pour vous donner un exemple, que j'ai supprimé le sucre dans le café. Au début, ça me faisait bizarre, et maintenant, je m'y suis bien fait. C'est plutôt l'inverse. Je supporte pas le sucre. Faut supprimer les sodas. Et puis, éviter de grignoter. Et je vois pas, compte tenu de votre corpulence annoncée, je vois pas l'intérêt de faire un régime. Et vous allez voir, si vous faites un tout petit peu attention quand vous mangez et à votre boisson. Et puis faites un peu plus de sport si vous n'en faites pas beaucoup. Un peu plus d'activité physique. Je sais pas quel est votre métier, mais si vous êtes plutôt sédentaire, essayez de faire un peu d'activité physique.
Voilà, des conseils de bon sens du professeur Luc Sinobert. Très bonne journée en Guinée, Boubacar. On va prendre un auditeur, peut-être le dernier, ce sera Germanus à Kisangani en République démocratique du Congo. Bonjour Germanus.
Bonjour Caroline et bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, moi je suis né d'une famille dont le père est obèse et la mère obèse aussi. Il y a 3 ans, le père a été déclaré diabétique et notre grande sœur et la petite sœur sont aussi obèses. Mais j'ai peur que je puisse développer aussi l'obésité dans le futur.
Germain,
j'ai 22 ans, Germain, je pèse,
oui. Votre poids.
Je pèse jusqu'à 5 kilos et 168 centimètres.
On peut dire qu'actuellement, professeur Sinobert, 1m68 pour 55 kilos, il est très loin d'être obèse. Hein.
Ouais. Et vous avez quel âge, monsieur?
J'ai 22 ans.
22 ans. Bon, il existe... il existe des cas d'obésité héréditaire, génétique, mais ils sont extrêmement rares, d'une part. Et d'autre part, si vous deviez, à l'image de votre père, votre mère, vos sœurs, être obèse d'origine héréditaire, vous le seriez depuis longtemps. Voilà, c'est une réponse absolue. Après, ce que vous pouvez regarder, c'est quelle est la différence de comportement alimentaire, d'hygiène de vie, par rapport à vos parents et à vos sœurs. Et vous aurez une réponse.
Germanus, par exemple, est-ce que vous faites du sport par rapport à vos sœurs?
Oui, j'ai fait le sport, j'ai joué au foot.
Ouais. Incidemment, vous pouvez recommander à votre famille de copier sur vous. Ils ont des chances de maigrir.
Pour inverser l'hérédité dans le bon sens. Voilà, Germanus. Non, il n'y a pas d'hérédité. Ce conseil du professeur Sinobert, donc plutôt rassurant. Une question de Fadi que je vous lis. Je l'ai sous les yeux. Fadi qui nous envoyait ce message de Paris. Elle ne travaille pas. Elle a pris beaucoup de poids. Elle s'interroge sur le fait que ce soit le stress qui en soit responsable parce qu'elle avait fait un régime important. Elle avait perdu 23 kilos en 4 mois. Et puis, elle a arrêté de faire du sport. Elle a 49 ans. Elle fait presque 100 kilos, 99 pour 1m68. Et elle s'interroge, est-ce que le stress peut vraiment faire grossir?
Oui, bien sûr, parce que le stress est responsable, on dit, de comportements compulsifs. Maintenant, des gens qui travaillent pas, tout dépend s'il y a des enfants à s'occuper ou autre chose. Moi, je vois pas... on retrouve l'effet yo-yo du régime dont on a parlé tout à l'heure, mais moi, je vois pas le stress, je vois l'ennui. Et donc, quand on s'ennuie, on grignote. et on grignote tout le temps. Donc, le mieux, c'est d'essayer de s'occuper. C'est très variable selon la situation, sans l'âge. Et l'âge, si le fait de ne pas travailler est souhaité ou n'est pas souhaité, il y a des gens qui participent aux activités d'associations caritatives ou autres, etc., etc. Alors, donc, il faut se poser une question sur le mode de vie.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste qu'on résume avec, pour conclure, cette question sur laquelle vous insistez dans votre livre, c'est la dénutrition des personnes âgées. Hélas, il nous reste moins d'une minute. Vous dites que c'est très important que les personnes âgées continuent de bien manger, y compris à la fin de leur vie. C'est quelque chose d'important, justement, parce que mieux on mange, mieux on se porte, y compris quand on est très vieux.
Oui, oui. Et là, c'est multifacette. Tout dépend si on vit chez soi ou dans une maison de retraite, une EHPAD, ou on est à l'hôpital. Il y a une mission de santé publique qui est assurée par un collectif de lutte contre la dénutrition animé par le professeur Éric Fontaine, qui est professeur de nutrition à Grenoble, et qui fait une œuvre auprès des pouvoirs publics, auprès des directeurs d'hôpitaux, etc., pour que les sujets âgés soient mieux pris en charge au point de vue nutritionnel.
Et qu'ils puissent mieux manger au quotidien. Merci ouais. beaucoup, professeur Luxine Aubert, hein, professeur de nutrition, chef du service de biochimie à l'hôpital Cochin. Je rappelle le titre de votre livre, à la fois complet et incisif, tout sur votre poids, ne prenez pas de risques, aux éditions Michel Lafon.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine, un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Juliette, pour commencer, un gros plan sur le coût de la santé aux États-Unis.
Et des dépenses de santé plus importantes que dans les autres pays développés. En fait, en matière médicale, tout est plus cher aux États-Unis. Les médicaments, les équipements, les salaires des médecins.
Et Juliette, cette inflation n'est pas pour autant synonyme de qualité, bien au contraire.
Oui Caroline, les auteurs de cette étude publiée dans le Journal of the American Medical Association pointent que derrière ces dépenses considérables, le pays de Donald Trump enregistre les pire résultat en matière de santé pour la population et le moins bon accès aux soins de tous les autres pays riches. Conséquence, avec 78,8 ans, les États-Unis ont l'espérance de vie la plus faible des 11 pays analysés.
Alors on revient à présent sur le jugement qui a été prononcé mardi à Cotonou au Bénin dans le procès des faux médicaments.
Mais un procès sans précédent qui se solde par la condamnation à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme des 5 principaux distributeurs de médicaments du pays. Des peines assorties de lourdes amendes. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
4 ans de prison ferme, 10 millions CFA d'amende pour les patrons grossistes agréés, ce n'est pas tout. Ils devront verser de façon solidaire à l'État des dommages évalués à 100 millions de francs CFA. Les 3 juges ont retenu contre eux les délits d'exercice illégal de pharmacie et de vente de médicaments falsifiés. Ils ont suivi l'essentiel des réquisitions. Il y a eu quelques relax, mais ce sont les gros qui ont payé. La lecture du jugement a été brève, pourtant la salle a eu le temps de ronchonner et de pester. Après le verdict, la cour se retire, les condamnés vêtus de gilets bleus, siglés prison civile de Cotonou, sortent par la porte de droite, ils sont encadrés par la police. Le patron français de Promo Pharma s'arrête à hauteur de ses proches venus de Paris, il embrasse sa compagne et serre des mains, émotion forte. Plus tard, ils embarquent dans un fourgon direction la maison d'arrêt de Cotonou, des amis et proches sont dans la cour, les condamnés les saluent de la main dans un tribunal sous haute surveillance. Les avocats sont réservés, très peu acceptent de parler à la presse. Ils annoncent juste qu'ils feront appel. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et au lendemain du procès, eh bien, le gouvernement béninois a de son côté décidé de suspendre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Suspension de l'ordre pour 6 mois, le temps d'engager des réformes et interdiction de l'un des principaux fournisseurs béninois, le laboratoire New Sesamex, basé en République démocratique du Congo.
En France, la Direction générale de la Santé recense désormais 913 cas de rougeole.
Une épidémie partie de la région de Bordeaux début novembre, Caroline, et qui s'est étendue. Une épidémie qui met en lumière la baisse de la couverture vaccinale, car la rougeole, c'est l'une des maladies les plus contagieuses. Les épidémiologistes visent 95% de la population vaccinée. Mais aujourd'hui, dans certains départements, on recense seulement 62% de personnes vaccinées.
Alors, dans l'océan Indien, l'île de Mayotte, paralysée par des barrages depuis 3 semaines maintenant, et il y a des répercussions, Juliette, pour le secteur sanitaire.
L'hôpital de Mamoudzou, le seul de l'île, se trouve dans une situation critique, rupture de stock pour certains antibiotiques en raison du blocage du port de Longoni. Mais les pénuries touchent aussi le linge des personnels hospitaliers et jusqu'à l'oxygène pour les patients. Et les barrages compliquent aussi les évacuations et les transports sanitaires.
À Paris, la Haute Autorité de Santé a publié jeudi ses recommandations pour la fin de vie.
Sur le protocole de la sédation profonde et continue, destinée à endormir définitivement les malades incurables et en très grande souffrance, l'autorité a rédigé un guide pour appréhender cette situation.
Et seul, il y a droit à un patient encore en capacité d'exprimer sa volonté.
En cas contraire, il faudra passer par une procédure collégiale au titre du refus de l'obstination déraisonnable.
Alors c'est confirmé, l'Agence européenne du médicament va bien déménager de Londres à Amsterdam, tout cela bien sûr après le Brexit.
Oui, choix validé par les eurodéputés qui toutefois regrettent la procédure de désignation de la ville des Pays-Bas, regret que le Parlement européen ait été tenu à l'écart et que l'affaire ait été conclue à l'issue d'un tirage au sort. Amsterdam s'était retrouvée au coude à coude avec Milan et c'est début 2019 que l'agence devrait s'installer à Amsterdam.
Et puis pour conclure ce bulletin de santé, Juliette, la disparition d'une figure de la pédiatrie, l'américain Thomas Berry Brazelton.
Il avait 99 ans. Ce professeur de pédiatrie à Harvard, spécialisé dans la recherche néonatale, a mis en valeur les compétences précoces du nourrisson et son caractère individualisé.
Oui, le bébé est une personne et le professeur Brazelton avait élaboré un outil encore utilisé aujourd'hui, ça s'appelle l'échelle de Brazelton.
C'est un outil utilisé dans les services de néonatologie de la naissance au deuxième mois pour enregistrer les réponses du bébé aux stimulations et pour dépister de façon précoce d'éventuels troubles du développement neurologique.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique votre émission lundi. Reportage au Bénin sur les relais communautaires de l'UNICEF dans la région d'Abomey. Le numéro de votre émission, 33 84 22 75 75.
Priorité Santé, avec Suno Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.